pongien d'une prose primaire, d'un modèle primaire de la prose, enfin, d'école primaire de la prose, par opposition au choix bretonien d'un modèle seconde, enfin collège ou secondaire de la prose, ou disons rhétorique bossuétien, enfin je ne sais quoi, de la prose. Enfin, il y a des choses, des simplifications qui m'ont paru absolument scandaleuses dans ce livre à ce moment-là, et je me suis dit c'est pas possible, disons. Mon problème, c'était justement, contrairement à ce que tu as dit, Jean-Pierre Solgas, il faudrait que tu fasses attention à ce que tu dis. Tu as dit, Poésie Figuration, c'est au contraire un livre où il n'y a pas la dimension formelle. Moi, je dirais non, elle est présente.
Non, si j'ai dit ça, c'est vraiment... C'est une autre façon de penser la...
Non, moi, j'essayais de dire justement... C'était de tenir compte. Bon, pour moi, Poésie Figuration, c'est un livre qui tient le plus grand compte... De l'histoire des formes, d'un bout à l'autre, je veux dire, de la lecture du lac de Lamartine à la lecture des antéfixes de Niroche. Donc, y a cette composante formelle, simplement, il n'y a pas ce que j'appelais, enfin, ce que je croyais être la réduction d'une histoire de la poésie à la dimension formelle de la poésie, et pas non plus la réduction de la dimension formelle de la poésie à la dimension vers de la poésie. Cet ensemble de réductions nécessaires, bon, Roubaud les avait opérées dans La vie d'Alexandre, bon, ce qui fait que c'est un livre extrêmement, pédagogiquement, didactiquement extrêmement impressionnant. Et sans doute scientifiquement, d'une certaine manière, il faut, si on veut exposer quelque chose sérieusement, il faut opérer un certain nombre de mises entre parenthèses, etc. Il faut cerner un objet, etc. C'était ce qui était fait là. Mais moi, j'ai essayé de faire quelque chose de plus complexe dans Poésie et Figuration, et évidemment peut-être moins démonstratif. Mais bon, voilà, c'était tout. Donc c'était un moment du dialogue. Et j'allais dire presque par plaisanterie que le dernier moment du dialogue, en dehors de ce soir, c'est le fait que j'ai publié dans ma revue Gnoc, qui s'appelle Gnoc précisément parce qu'elle ne s'appelle pas Poésie, par exemple. Voilà. J'ai donc, dans cette revue Gnoc, publié un 14-1 de sonnet, c'est-à-dire au fond un sonnet de l'écrivain, donc il faut dire anglais, puisqu'il est de langue anglaise, Tom Raworth. Traduit
non, lui est irlandais.
traduit notamment, oui, traduit notamment par Jacques Roubaud, presque pour signifier, mais je veux dire, la communication est toujours indirecte, presque pour signifier à Jacques Roubaud que bien que apparemment je sois peut-être quelqu'un pour qui la notion même de sonnet ne dit pas grand chose ou plus grand chose, je suis pas non plus un être borné, et que je considère que les sonnets, aussi bien ceux de Jacques Roubaud que ceux de Tom Raworth que ceux d'autres de mes amis poètes, font partie de la poésie. Alors donc ce serait un élément de dialogue, mais je pense que le dialogue comme ça il a lieu pas seulement par les propos qu'on échange, mais également par les choses qu'on fait, les choses concrètes, les actes, évidemment. Et ce que je voulais dire encore, oui, parce que tu as mentionné cette première phrase de ce poème de Francis Ponch qui s'appelle La fille qui sèche, hein, qui est un poème. Un poème qui est paru dans le numéro 1 d'ailleurs de la revue telle quelle, il me semble.
Oui.
Autrefois, ce poème, en effet, il commence par cette phrase, ou ce fragment de phrase, pour ne savoir pas trop ce qu'est la poésie, nos rapports avec elle sont incertains. Cette figue sèche, en revanche, et là, il nous offre cette figue, il nous la montre, etc. Voilà, il y a ce déictique, là, cette figue, bien. Alors, effectivement, moi, ce qui me... Bon, pour moi, tout commence d'une certaine façon par là aussi, par l'affirmation d'un non-savoir, enfin, en tout cas, d'un non-savoir relatif quant à la poésie, par une incertitude, le fait d'entretenir des rapports incertains vis-à-vis de la poésie. Et c'est vrai, moi je l'avoue, c'est mon cas, c'est profondément... Enfin, ça n'est pas une façon de parler, je veux dire, en ce qui me concerne. Je crois pouvoir dire, j'entretiens avec la poésie des rapports extrêmement incertains, extrêmement ambigus. Certainement, j'imagine que personne qui s'occupe directement de poésie entretient des rapports simples avec la poésie, je veux dire des rapports directs et simples et mono. Bon. Mais pour ce qui me concerne, c'est vrai qu'il y a une très très forte ambivalence, hein, et que j'ai le sentiment constamment, au fond peut-être, de ne m'occuper que de ça, du matin au soir et peut-être du soir au matin quand je dors, hein, mais de ne m'occuper que de ça et en même temps d'être tout occupé à faire le procès, en quelque sorte, de cette poésie qui m'occupe tant. Et en tout cas de m'interroger de façon constante sur ce qu'il en est, de qu'est-ce que c'est, pourquoi, etc., à quoi ça correspond cette poésie. Bon, il y a d'une part cela. Et alors, ce qui m'intéresse également dans cette première phrase, qui est non seulement initiale du poème, mais pour moi matricielle, initiante, qui est vraiment une introduction, quoi, à la poésie ou à la non-poésie ou à l'incertitude quant à la poésie, etc. C'est le fait que, très volontairement de la part de Francis Ponge, je pense qu'il faut dire volontairement ici, au moment même où il déclare qu'il ne sait pas trop ce que c'est, il le fait précisément dans ce rythme qui est celui du vers français, du seul vin, du grand vers français, de l'alexandrin, pour ne savoir pas trop ce qu'est la poésie. Alors, il sait ce que c'est, d'une certaine façon, il répond lui aussi implicitement, comme Jacques Roubaud, la poésie, c'est le vers. Et le vers, c'est pas le vers, qu'est-ce que c'est? C'est le 12. Hein, c'est ce vers de ces 12 positions métriques, bien entendu. C'est l'alexandrin. Mais en même temps, il restitue, et je crois, bon, ça c'est le mouvement que fait Ponge, et que d'une certaine manière je fais avec lui, que je ne peux pas ne pas faire avec lui, il restitue cet alexandrin, ce vers, à la prose. D'une certaine manière, il le met en prose, ou il le remet à la prose, en quelque sorte, et il repart dans la prose, hors du vers. Ce qui est important de voir, c'est que chez Ponge, le vers n'est pas absent, mais le vers est l'objet, en quelque sorte, d'un dépassement. Le vers est, comme beaucoup d'autres choses, comme l'image, la métaphore ou d'autres choses, chez Ponge, un outil, un moyen. Le texte le plus beau, je m'arrêterai peut-être là, parce que je parle trop longuement, le texte le plus beau, le plus clair de Ponge là-dessus, c'est ce texte qu'il nous donne dans La rage de l'expression, qui s'appelle Le carnet du bois de pin. Dans Le carnet du bois de pin, on voit donc cet homme, si je puis dire, sortir dans le bois. Là, il se trouve face au réel et face à la langue, ayant tout oublié, ayant d'une certaine manière tout oublié, ou fin de tout oublier, n'ayant plus sa bibliothèque, je pense que c'est le moment de la guerre, etc. Il n'a plus la bibliothèque avec lui, il y a des bribes de Baudelaire dans sa tête, oui, c'est sûr, il y a... Bon, mais la bibliothèque n'est plus là, il n'a plus rien, et il dit, il faut que j'écrive, au fond, le livre peut-être que j'aurais envie de lire. Donc il rencontre le réel, il sort dans le bois, etc. Et là, il se met à la recherche de la formule du bois de pin, de la formule, enfin, j'allais dire littérale, de la formule juste. Il essaie de rapprocher le langage du réel ou le réel du langage. Et cherchant cette formule, petit à petit, bien, il trouve des bribes, des fragments comme ça qu'il met ensemble. Et les mettant ensemble, il les fait jouer ensemble, il les arrange, il les monte en quelque sorte. Et tout cela donne quelque chose comme un poème qui fonctionne. Et qui fonctionne avec toutes sortes de permutations possibles, à la manière un petit peu d'un jeu. Enfin, d'un jeu de construction, d'un mécano. Et il intitule cela « Formation d'un abcès poétique ». C'est-à-dire donc à un moment donné, il y a dans son texte la formation d'un abcès poétique. Et puis, bon, à un moment, il s'arrête, il a assez joué d'une certaine façon, et il se dit, mais peut-être ai-je quelque peu perdu mon temps à faire cela, enfin bon, qui ai-je gagné, etc. Et il détruit son mécano, il détruit sa construction, son Lego, et il repart et il redistribue ses éléments dans la prose. Et finalement, nous voyons qu'il n'aboutit pas au poème, c'est-à-dire que nous n'aurons jamais, nous lecteurs, le bois de pin de Francis Ponge, nous n'aurons que, si j'ose dire, le carnet du bois de pin. Nous ne lirons que le carnet du bois de pin. Et à son ami, je crois que c'était Gabriel Audizio, qui n'ayant pas vraiment compris ce à quoi se livrait Francis Ponge, à son ami qui lui dit « Mais alors, c'est un petit peu ce que tu nous donnes, c'est un peu comme la jeunesse d'un poème à la manière d'Edgar Poe. » Francis Ponge dit « Non, ça n'est pas la jeunesse d'un poème, c'est l'assassinat d'un poème par son objet. » L'assassinat d'un poème par son objet. Donc ce qui en dernière instance compte pour lui, c'est non pas le poème, c'est l'objet, la réalité, cela, ce qui est, ce qui se passe, que j'appelle moi parfois la circonstance. Enfin, il y a beaucoup de mots pour le dire. Cela qui est, le dehors, ou que sais-je. Enfin, cela peut avoir beaucoup de noms. Donc, bon, moi ça me trouble énormément d'une certaine façon. C'est vrai que bon, j'y passe du vers à la prose, comme l'a fait aussi Rimbaud. C'est vrai qu'il passe du vers à la prose, comme l'a fait aussi Denis Roche, à sa manière. Et puis, mais il passe pas seulement du vers à la prose, il passe aussi du poème, de l'idée ou de l'illusion que le poème est possible, à quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est une pratique de l'écriture, une pratique qui est sans nom d'ailleurs, qui est sans nom et qui est sans forme. Qui peut être par exemple la pratique du journal, enfin c'est la pratique de l'écriture directe face à la langue. Hein? Que cela s'appelle poème ou ne s'appelle pas poème, enfin peu importe. Moi j'ai l'impression d'être, je l'avoue, face à cela. C'est-à-dire, si jamais quelque chose comme la spécificité de la poésie ou ce que tu appelles l'autonomie de la poésie est perdue, n'est plus ou ne nous est plus de rien, ne nous sert plus à grand chose, personnellement je me refuse à le vivre comme une catastrophe. Je ne le vis pas comme une catastrophe. Ça m'est égal qu'il n'y ait pas d'autonomie de la poésie. Ça m'est égal. Je ne nie pas qu'il y ait eu une autonomie de la poésie. Certes, mais aujourd'hui, ici, maintenant, si au fond la poésie ne se reconnaît plus à ses formes, si même à la limite il n'y a plus quelque chose que nous pourrions appeler poésie, je refuse d'en faire un drame. D'une certaine façon, je n'en fais pas un drame. Et je vis avec cela. Je ne porte pas non plus le deuil de la poésie. C'est un état de fait. C'est là que je cherche. Voilà. Ceci étant dit, juste un petit mot à la question, tout simplement à la question posée pour nous et aussi posée par nous. Y a-t-il une histoire formelle ou une histoire formelle de la poésie est-elle possible? Bien entendu. Je réponds oui, et non seulement je réponds qu'elle est possible, mais je réponds qu'elle est souhaitable et qu'elle est nécessaire, et qu'elle est d'autant plus nécessaire que il me semble que dans ces années 80, on vit un petit peu
une restauration.
Des régressions de toutes sortes. Je dirais une régression anti-formaliste, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont intérêt à nous faire croire que finalement la poésie n'a pas de forme, la poésie n'est pas, enfin qu'il n'y a pas d'instance du formel, ou que la littérature serait pas faite avec de la langue, etc. Bon, ça existe. Et d'autre part, il y a une réaction ou une régression que j'appellerais formaliste, mais certainement pas au sens où Jacques Roubaud serait un grand formaliste, mais une régression formaliste au sens péjoratif du terme formaliste, c'est les gens qui nous disent bon ben au fond, non seulement il nous faudrait retrouver une poésie simple, une poésie lyrique, une poésie de l'émotion, etc., mais il nous faudrait retrouver les formes anciennes de la poésie, mais les formes anciennes sous forme arrêtée. J'entends les formes restaurées d'une poésie un alexandrin reconstitué, un alexandrin rimé, etc., etc. Et nous ne voyons que trop autour de nous. C'est pas la peine de donner l'exemple. Il y a toutes sortes de textes qui se publient, qui sont à mes yeux, alors là, de l'ordre le plus formellement consternant, enfin totalement consternant, et alors qui eux donnent une idée épouvantable de la. Je veux dire, si la poésie c'est ça, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
J'ai tellement de questions à poser et dans tous les sens que je ne sais plus ni par où ni par qui commencer. Je veux dire, concernant ce que tu viens de dire juste à l'instant, c'est sûr qu'on y a probablement aujourd'hui quelque chose qui est analogue à ce qui s'est passé au moment du nouveau roman et à cette haine, qui est la haine vraiment, effectivement, vraiment formaliste, enfin bon, qui consiste à vouloir arrêter les formes et à revenir en arrière. Enfin, bon. Laissons ça de côté.
Oui, je pense que c'est pas la peine.
Cela dit, c'est pas la peine d'en parler. Reste que ça rend probablement bizarrement solidaire d'une certaine façon aujourd'hui, non seulement vous deux, enfin, mais peut-être à la limite Kristeva, c'est-à-dire un point de vue justement qui consisterait à penser, ce contre quoi vous vous êtes éventuellement battu à un certain moment, mais je reviendrai à la question Kristeva tout à l'heure, non pas à Kristeva directement, mais à Jacobson et à un certain traitement justement que l'on pourrait appeler aussi formaliste de la poésie. Juste une question que je voulais te poser par rapport à ce que tu dis, parce qu'il me semble, quand j'entends Jacques Roubaud, moi comme ça, enfin qui suis tout sauf compétent en matière poétique, la question que je me pose, c'est la prose. Enfin, c'est-à-dire, je ne vois pas très bien ce qu'il appelle la prose, et je pense qu'il faudrait... sa réponse ne me satisfait pas. Et la question, pour toi, évidemment, c'est plutôt la poésie, au sens où est-ce que tu définirais la poésie dans sa spécificité quand même, à partir de ce que tu dis du carnet du bois de pin, c'est-à-dire, au fond, cet usage d'un langage... hanté par la catastrophe de la non-coïncidence avec le réel et qui veut, enfin, bon, catastrophe qu'on pourrait dire malarméenne pour aller vite, et qui veut aller retrouver le réel, la circonstance, l'événement, etc. Est-ce que ça te paraîtrait une définition qui vaudrait au-delà de Ponge pour ce que tu appellerais la poésie, mais est-ce que la poésie ça a un sens? Parce que
Je n'en sais rien, oui. Et d'une certaine façon...
Ce qui me frappait aussi, c'est que tout à l'heure, tu dis, j'en doute toujours, mais tu gardes ce mot, la poésie. Voilà. Alors, il en faudra aller jusqu'à dire, comme dit l'autre,
je conserve le mot.
Qu'elle n'existe pas.
Je ne veux pas prononcer cette phrase, qui est une phrase qui est difficile d'interpréter, qui a des interprétations multiples, qui est d'une certaine façon une phrase à laquelle, pour certaines raisons, je crois, enfin que j'ai glosé moi-même.
Tu donnes une
etc.
interprétation lacanienne.
Bon,
mais il y a des femmes.
Je laisse cette phrase de côté. Je dirais que ce qui.
Je rappelle que c'est une phrase de Denis Roche. La poésie oui. est inadmissible. D'ailleurs, elle n'existe
oui,
pas.
Oui, mais c'est une phrase dangereuse, comme toutes les phrases géniales, dans la mesure où c'est une phrase qui a pu servir à quelques. Malin ou quelque naïf de slogan qui n'avait pas grand sens, voilà.
Ça peut servir dans les deux sens.
Et alors, c'est vrai. C'est une phrase dangereuse, d'une certaine façon, comme toutes les phrases fortes. Hein. C'est une arme à multiples tranchants. Et donc, voilà. Mais ceci étant dit, il n'est pas question de se débarrasser d'un mot, de se débarrasser d'une chose, etc. Moi, peut-être ce qui m'intéresse... Je dirais, peut-être, je ne veux pas parler à la place de Jacques Roubaud, mais je dirais, l'impression que j'ai moi, c'est que Jacques Roubaud cherche à confirmer en quelque sorte la poésie, à la confirmer dans son existence et dans sa productivité. Il s'agit d'essayer de déduire toutes les formes de poésie encore possibles. À partir de cette mémoire que la poésie est d'une certaine manière. La poésie est mémoire de la langue et mémoire de la poésie. Je pense que sur ces deux notions, nous serions complètement d'accord. Donc de ce point de vue-là, il me semble que tout le travail de Jacques Roubaud, son travail de poéticien comme son travail de poète, ou de poète et de métapoète, tend à confirmer en quelque sorte et à prolonger la poésie, à lui donner des suites, à la faire être et non pas survivre, mais à la faire... vivre, proliférer, se multiplier, se créer, etc. C'est la créativité infinie, finalement, des formes. C'est comme ça que je l'entends. Un petit peu comme les règles peuvent être, de la langue, peuvent être productives à l'infini. Pour ce qui me concerne, compte tenu de cette référence à Francis Ponge, qui n'est pas pour moi une référence, je dirais, scolaire, mais qui est un engagement en quelque sorte au fond. Ce qui me requiert, c'est ce que j'appellerais, mais je ne sais pas très bien ce que c'est, la poésie après la poésie. Voilà ce qui m'intéresse. La poésie après la poésie. Qu'est-ce qu'il en est de la poésie après la poésie? Pour moi, la prose n'est pas du tout quelque chose qui est en dehors de la poésie. Pour moi, il y a cette activité poétique qui, à un moment, peut-être s'arrête pour diverses raisons. Et pour les uns et les autres, elle ne s'arrête pas au même moment ni de la même façon. Je veux dire que pour Rimbaud, elle s'arrête à un moment quelque part. Je veux dire la poésie sous forme travail du vers. Hein, travail du vers. D'abord le travail de pastiche du vers ancien, d'appropriation du vers ancien, puis l'invention d'un vers nouveau, puis l'invention d'une prose, puis finalement, au-delà de cette prose, qu'y a-t-il? Puis ce moment où Rimbaud dit, où il évoque la possibilité d'une poésie objective. Mais il ne dit pas ce que c'est. Et puis quand il dit, il y a la réalité rugueuse à étreindre, mais nous ne savons pas exactement ce que c'est. Pour lui, il y a ce silence, etc. Bon, pour Denis Roche, il sort de la poésie un moment avec le mécrit. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la prose du journal intime, il y a la prose du roman, enfin l'Ouvre-Bas si c'est un roman, il y a le travail photographique, il y a le travail littéral de la photographie, il y a toutes sortes de tentatives qui sont des tentatives qui ont toutes pour point commun une rencontre avec la réalité, avec le réel. Bon, Ponge, je n'insiste pas, j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, chacun à un moment donné, à un endroit donné, sort de la poésie pour se retrouver en quelque sorte nu face à la réalité, un peu dans le bois, face à l'arbre là, un peu comme Giroud aussi, d'une certaine manière, il l'a fait ça, il a affronté cela. Roger Giroud.
Ah d'accord.
Dans l'arbre le temps. Ouais, ben c'est ça, il sort, il se trouve en un espace, bon, qui est que. Et alors, je dis voilà, je suis là, mais je dirais que à ce point là, peu importe qu'on parle de poésie ou pas de poésie, qu'on parle de prose ou de photographie, qu'on parle de photographie ou de peinture. Peut-être est-ce que, on verra d'ailleurs, c'est encore plus, je suis peut-être encore plus scandaleux, si je peux me targuer d'être scandaleux, mais je ne le suis certainement pas. Mais je veux dire, dans Poésie et littéralité, qui est ce livre auquel je faisais allusion, je parle aussi bien, enfin, quoique pas trop longuement, mais je parle aussi bien de peinture que de littérature. C'est-à-dire qu'à la limite, pour moi, là, maintenant, la question n'est plus seulement d'une sortie hors du vers, au-delà du vers, mais de même à la limite de la littérature elle-même. Ça m'importe pas, moi. Je suis aussi intéressé par Cézanne, Giacometti, une photographie de Jean Dev ou de Denis Roche, un texte de journal, etc. Bon, voilà, un espace.
Je m'excuse de t'interrompre parce que
n'est plus de formelle, enfin étroitement formelle.
Mm-hmm. Avant de
où elle est multiformelle.
D'interroger Jacques Roubaud, je voudrais juste ta réponse sur un point, mais concernant quelque chose qui moi m'a toujours surpris. Pourquoi c'est Lamartine que tu élis comme une sorte de source de la modernité? Pourquoi c'est dans le lac de Lamartine au fond que tu vas chercher la source de Denis Roche, si je puis condenser très vite?
Non, mais je me suis plus à rapprocher les deux personnages parce que c'était un peu une provocation de le faire. Puis il me semblait que personne ne lisait Lamartine réellement et qu'il y avait tout intérêt à le faire. Et que moi, ce serait, si vous voulez, les jeunes poètes néo-lyriques d'aujourd'hui, génération des années 80, etc., qui nous sortent des salades néo-romantiques molles, je leur dirais « lisez Lamartine ». Alors j'ai essayé de leur donner à lire, un peu avant qu'ils n'apparaissent, Lamartine lui-même. « Lisez Lamartine lui-même ». Alors Lamartine lui-même, ça m'a paru être une sortie, un travail intéressant. Puis alors j'ai des raisons, bon... Je ne développe pas là, mais puis alors j'ai des raisons qui sont des raisons fantasmatiques personnelles. Je veux dire que Lamartine est l'auteur d'un lac. Sur ce lac, je reviens de multiples manières. Pour moi, il y a dans ce lac lamartinien un site qu'il m'importe. Bon, l'aimant, c'est voilà, et puis. Oui, oui, bien sûr.
Enfin, non seulement. Je signale que Léman est un texte de prose que tu as publié il y a 2 ans ou 3 ans à peu près, c'est pour ça.
Voilà. Bon. Donc il y a des raisons qui seraient des raisons toutes personnelles relatives à la constitution d'un site poétique en emblème en quelque sorte d'une pratique, d'une réflexion, d'une pensée. Et voilà.
Oui, je voudrais maintenant me tourner vers Robot pour lui poser, je sais pas, plusieurs questions qui s'articulent ou qui ne s'articulent pas. La première, comme ça, peut-être par rapport à ce que dit Jean-Marie Glaise, enfin, finalement, savoir ce que Ponge qui semble être évidemment un poète assez loin de sa problématique, qu'est-ce que ça lui dit ou qu'est-ce que ça ne lui dit pas, enfin, comment il réagit à Ponge. Bon, ça, c'est une question vraiment ponctuelle, réponse éventuellement brève. Et l'autre question, par rapport à ce que disait Glaise tout à l'heure, et en pensant au titre du dernier recueil du poème de Roubaud, La pluralité des mondes de Lewis, enfin, je me pose la question de savoir s'il n'y a pas une pluralité des mondes formels possibles. C'est-à-dire si finalement, par rapport à cette question dont on débat, et par rapport à ce qui est une sorte d'opposition entre vous, entre effectivement, tu avais tout à fait raison, deux façons de penser le formel, est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième façon, enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième, une quatrième, une cinquième façon, enfin, comment vous voyez cette question, en particulier justement, je dis ça parce que je pense que si on dit comme ça à un vaste public une lecture formelle de la poésie, tout le monde pense plutôt au chat de Jacobson Lévi-Strauss, au chat de Baudelaire lu par Jacobson Lévi-Strauss par exemple, où tout le monde, enfin, donc, enfin, en deçà même du travail que vous contestate de Kristeva en son temps. Donc, comment vous voyez le rapport de la novation et de la rupture, même si vous êtes tous, sauf le poète de la rupture, de la vieillesse d'Alexandre avec les formalismes antérieurs, ce qu'on classe ordinairement sous la rubrique formalisme pour étudier, pour penser et continuer la poésie, pour penser et pour écrire aussi la poésie.
Bon, alors sur la première question, c'est-à-dire sur Ponge, je suis un lecteur de Ponge, comme il y a beaucoup de lecteurs de Ponge, c'est raisonnable qu'il y ait des lecteurs de Ponge.
Dans un monde possible, constitué de lecteurs de Ponge.
Dans un monde possible, ce n'est pas ma référence principale, mais bien entendu, c'est de la poésie que j'ai lue avec beaucoup de d'intérêt, comme poésie.
Tu considères que c'est de la poésie, quand même.
Ouais. Oui, quand ça m'intéresse, oui, c'est de la poésie. je voudrais préciser un petit peu la position, puisqu'on est quand même sorti de l'histoire formelle pour aborder la question y a-t-il un au-delà de la poésie ? Je pense qu'il y a toujours eu un au-delà de la poésie et que en sortant de la poésie, on ne rencontre pas nécessairement la réalité, oui. Pas plus qu'on ne la rencontre à l'intérieur de la poésie. Ma position serait la suivante, c'est que il y a de la poésie. Il y a eu et il y a de la poésie. Moi, je me situe dans la poésie. Je considère la poésie comme une activité autonome, c'est donc un art dont le matériau est essentiel est la langue. Et en fait, il n'y a pas d'autre art dont le matériau essentiel est la langue. La littérature n'est pas dans son essentiel. L'essentiel de la littérature n'est pas d'avoir pour matériau la langue, c'est la poésie qui a comme matériau essentiel la langue. Si on peut, bien entendu, déclarer que la poésie n'est plus possible, ou qu'elle n'a jamais été possible, qu'elle n'existe pas. Bien des positions sont possibles et sont défendables. Bon, c'est pas, évidemment pas la mienne. Et je pense que, à cause de ce lien que je vois entre la poésie et la langue, qui est un lien, disons, consubstantiel, entre la poésie et la langue, qu'il y a de la poésie dans toutes les langues, qu'il y a eu de la poésie dans toutes les langues, et d'une certaine façon, s'il y avait disparition de la poésie, ce que je ne pense pas, il y aurait indiscutablement affaiblissement de l'identité d'une langue. Hein ? C'est la poésie est dans une langue, et s'il y a disparition de la poésie dans cette langue, il y a aussi affaiblissement et éventuellement disparition de la langue. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a une catégorie particulière dans les arts du langage, qui est celle de la poésie. En dehors de cela, il y a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Moi, je n'ai pas de particulière compétence ni intérêt spéciaux pour les définir. Donc, je ne sais pas ce que c'est que le roman. Je ne sais pas ce que c'est que la littérature, particulièrement. Ce sont d'autres manières de se débrouiller avec la langue. La seule chose pour laquelle j'ai une conception qui est donc de nature essentialiste, c'est la poésie. Et, disons, il y a quelque chose qui est tout à fait particulier dans la poésie, c'est que la poésie a un dehors. Et dans ce dehors, de langue, bien entendu, je ne parle pas du dehors de la, forêt. Dehors de la langue, il y a bien entendu des manières qui sont d'une certaine façon antagonistes à la poésie de traiter la langue. Et il y a toujours, du moins tant que la poésie, depuis que la notion de poésie existe pour moi, c'est-à-dire en fait dans notre tradition depuis les Grecs, et je pense même que c'est une apparition de nature très particulière, qu'on ne rencontre pas ça dans les autres civilisations, dans les autres traditions. Depuis que ceci est apparu, c'est-à-dire que la poésie en tant que telle est apparue, eh bien, il y a toujours eu une lutte à l'intérieur de la langue entre la poésie et autre chose. Ce qui fait que cette autre chose qui, à l'échelle historique relativement récente, et le roman, qui d'ailleurs, le roman, comme chacun sait, est dans une crise particulièrement forte dont le marché ne le tirera pas. Donc, en dehors de ce point de vue, contrairement aux apparences, je pense que la survie de la poésie est plus assurée que celle du roman. Il va être totalement mangé par les journaux et la biographie. Donc, en dehors de cet aspect extrêmement, enfin, de cette situation extrêmement récente à l'échelle des langues, qu'est celle où la situation antagoniste par rapport à la poésie et celle du roman, il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu une sorte de lutte pour le contrôle, pour la défense, pour la répartition des rôles à l'intérieur des arts du langage. Et cette situation-là représente des frontières changeantes. Autrement dit, pour moi, même si je pense être dans la prose, ou je ne sais pas d'ailleurs exactement qu'est-ce qu'il en pensait réellement, même s'il y a cette pensée-là, ce qui se passe en fait, c'est qu'on a un terrain à frontières mouvantes. On a un terrain à frontières mouvantes, et la notion de frontière n'est pas une notion de frontière comme sur une carte, c'est-à-dire que quelque chose qu'on ne peut absolument, une ligne infiniment mince, derrière cette ligne on est dans un territoire, et si on franchit cette ligne on est dans une autre. On a affaire à une frontière de nature épaisse, et cette frontière de nature épaisse est mouvante. Et donc, moi je pense que la poésie, après avoir reculé devant la crise de la modernité, c'est-à-dire essentiellement celle qui est diagnostiquée par Mallarmé, et n'avoir cessé de reculer depuis un siècle, bien, en fait, fait le contraire. Et des expériences comme celle de Ponge, pour moi, c'est en fait un terrain conquis par la poésie.
Oui, mais alors, de ce point de vue, je pense que nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord.
Voilà qui est grave.
Non, c'est pas très grave.
Je vais essayer de vous remettre en désaccord.
Non, c'est pas très grave. Mais est-ce que... Oui, je veux dire, si tu peux imaginer un travail sur la langue, un travail de la langue, qui serait un travail qui mettrait entre parenthèses, ou qui sauterait par-dessus la mémoire prosodique, de quelque façon qu'elle le traite. Je veux dire, appellerais-tu poésie le fait pour un écrivain de se mettre en quelque sorte, ça n'est jamais direct, mais j'allais dire directement face au langage, pour le travailler, pour le traiter, etc., en oubliant qu'il y ait un traitement prosodique, enfin qu'il y a une histoire en quelque sorte, si tu veux, où intervient le nombre, où intervient une tradition d'être, où interviennent des traditions, etc. Tu vois, que cette instance soit en quelque sorte gommée, mise entre parenthèses, même peut-être simplement provisoirement, mais cette relation directe à la langue, mettons au dictionnaire, au vocable, etc., l'appellerais-tu encore poésie ou bien est-il besoin pour toi, véritablement, pour que poésie il y ait de cette référence à ce que tu appelles le vers, tu vois, bon, d'une façon très large.
Oui, d'une façon très large. C'est-à-dire, essentiellement, une certaine conception du nombre, une certaine manière de traiter le nombre, le métrico-rythmique. Je pense qu'on peut espérer faire ça, c'est-à-dire en sortir. Mais on n'y arrive pas. Pour moi, c'est purement illusoire.
Tu penses que le nombre revient toujours d'une manière ou d'une autre. Oui. Mais par exemple, une prose comme celle de Guyotat, si c'est une prose, te semble-t-elle relever de ce que tu appelles le roman, c'est-à-dire le dehors, ou bien de quelque chose qui nous intéresse, nous ?
Pour moi, ça fait partie des zones frontières.
Indécises.
Oui.
Très bien. Oui, alors je crois que nous sommes encore plus d'accord qu'il y a quelques secondes.
Attention.
Sauf que, bien entendu, il y a ce fétichisme du vers chez toi qui...
Non, c'est pas spécialement le vers n'est là que comme mode d'existence de la poésie. Il est secondaire pour moi, à la définition essentielle qui est fondée sur l'affirmation de l'existence de la poésie et de son lien inséparable à la langue, poésie, mémoire de la langue, poésie, art, dont le matériau essentiel est la langue. Mais ceci, ça a des implications, c'est-à-dire que si on suppose que la poésie existe et si on choisit d'agir comme poète, c'est-à-dire d'agir dans la poésie, on a évidemment une position particulière, un regard particulier porté sur ce qui est hors de la poésie, le hors-là de la poésie. Alors, vis-à-vis de ça, il y a en fait deux positions pour lesquelles on pourrait... Il n'est pas inutile de prendre des comparaisons de nature animale. L'anthropologie et un anthropomorphisme particulier consiste à représenter ces choses-là sous forme d'animaux. J'adopte assez volontiers l'image de la poésie que présente Jacques Derrida dans un texte qui a été publié dans une revue à laquelle je participe.
Poésie.
Qui s'appelle Poésie. Ouais. Et c'est l'image du hérisson. C'est l'image du hérisson. Et donc, je vois assez bien la poésie, donc celui qui travaille dans la poésie, comme ayant une grande sympathie pour le hérisson. Mais le hérisson a un gros défaut, bien qu'il soit infiniment sympathique.
Il traverse la route.
C'est qu'il traverse la route devant les camions des prix Goncourt, par exemple, ou enfin des choses comme ça. Mais surtout, il a un seul système de défense, un système de défense immobile, unique. Et en ayant une sympathie immense pour la conception de la poésie comme hérisson, en fait, je me tournerai, comme il est d'ailleurs de tradition dans la fabulation antique, qui a toujours des leçons de ce genre à donner en termes de contes et de récits. Il y a un autre animal qui me paraît représenter assez bien la deuxième position que je verrais volontiers adopter par quelqu'un qui s'intéresse à maintenir l'existence de la poésie, c'est celle du renard urbain. Depuis la Seconde Guerre mondiale, Ça s'est fait surtout au cours de la Seconde Guerre mondiale en Angleterre. Les renards, dans une situation particulièrement tragique et qui est encore aggravée par la réélection de John Major, puisque l'interdiction de la chasse à cour risque de ne pas être votée. Donc les renards, donc, tenant compte d'une situation particulièrement grave, ont adopté une position qui me paraît extrêmement intéressante, qui consiste à venir dans les villes. Donc, alors, on a étudié les populations de renards. Il y a comme ça, à Bristol, un certain nombre de villes anglaises, beaucoup, beaucoup de renards, qui sont des renards urbains. Certains d'entre eux habitent sur place. D'autres sont des banlieusards, c'est-à-dire qu'ils habitent dans la campagne et ils viennent travailler la nuit à la ville. Et donc, le renard, c'est la situation de la poésie dans un environnement de prose un peu difficile.
Voilà, oui. Hein?
Bon, une autre distinction que je ferai et qui alors d'une certaine façon,
Jules.
Au fond. Je la poserai quand même comme différenciant la poésie des autres arts du langage d'une façon différente de celle que j'ai dite précédemment, qui était en fait une simple affirmation axiomatique, parce que son caractère peut être plus visible que simplement l'affirmation axiomatique, et qui sépare donc de la littérature en général. Je ne suis pas ennemi de la littérature du tout. Hein. C'est absolument pas. Non, mais c'est vrai, parce que le fait de poser une différence, et même si cette différence est antagoniste, ne veut absolument pas dire qu'on considère que ce qui est différent n'a pas d'intérêt. Ce serait vraiment absurde. Non, cette différence, je pense, tout à fait forte et que je vois apparaître dans le projet d'écrit de Ponge et son impossibilité, l'impossibilité d'arriver au poème, qui est effectivement extrêmement différente de celle de Poe, c'est l'axiome suivant. On ne peut pas paraphraser la poésie. On ne peut pas dire ce qu'elle dit. La poésie dit ce qu'elle dit en le disant. Et il n'y a strictement rien en sortir de ça. Et ça, c'est la seule chose qui fait une différence essentielle, à mon avis, avec ce qui est hors la poésie. C'est pas le cas, bien évidemment, du roman, parce que les quatrièmes de couverture montrent très exactement que l'on peut très fréquemment dire du roman ce qu'il dit. D'ailleurs, quelquefois, on peut se dispenser ensuite de l'ouvrir. Le modèle du genre étant la quatrième de couverture qui peut valoir pour beaucoup, beaucoup de romans d'ailleurs, celle d'Alphonse Allais. Dans la première partie du roman, on raconte l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille. Ils se rencontrent, ils s'aiment, ils se marient. Dans la seconde partie du roman, l'action devient plus tragique encore. Ça, il est impossible de faire ça pour un poème. Et il est au contraire tout à fait essentiel de le faire pour le roman et de manière générale pour la littérature. Donc il y a une distance essentielle là entre la poésie et l'or de la poésie. Par exemple, si on étudie la poésie du point de vue formel, on est amené à se pencher sur le texte de Mallarmé, Crise de verre. Mais bien entendu, à cette occasion-là, il est strictement impossible de dire ce que dit Mallarmé dans sa poésie. Ce que dit Mallarmé, c'est « Au seul souci de voyager, outre une Inde splendide et trouble, ce salut soit le messager du temps cap que ta poupe double. » Et la suite. Mais en dehors de ça, il n'y a rien à dire. Bon. On a encore de la polémique possible.
Oui, oui, beaucoup de polémique possible. Non, je veux dire, comme ça, quand vous dites on peut pas paraphraser la poésie, ça me semble tout à fait sûr. Mais par rapport à cette problématique des frontières, enfin, est-ce que le roman moderne, c'est-à-dire tel que le voyait Flaubert, justement, à la différence de ses prédécesseurs, n'a pas consisté à essayer de donner au roman ces prestiges-là de non-paraphrasabilité, c'est-à-dire à venir sur la frontière, enfin, justement, à passer cette frontière.
Ouais. Heureusement, non, il n'y est point parvenu.
Oui. Flaubert espérait qu'on ne pouvait pas résumer Madame Bovary.
Mais il est absolument essentiel de le faire pour savoir ce qui se passe dedans.
Mais est-ce que c'est ce qui est important dans Madame Bovary, c'est ce qui se passe dedans ou bien...
C'est pas la seule chose, mais c'est absolument essentiel.
Ça ressemble un peu, d'ailleurs...
si on disait qu'il ne se passe rien dans Madame Bovary...
Comme on d'ailleurs, peut le dire, mais ça sera faux. Toute proposition est défendable, certaines d'entre elles sont fausses.
Oui, je voudrais vous poser deux questions. La première, puisque vous avez introduit cette question des frontières en repartant des Grecs, je voudrais vous poser la question que j'avais évoquée au début comme quelque chose qui était suspendu au-dessus de ce débat, qui est la question d'une autre frontière avec la philosophie, dans la mesure où ça me semble un problème qui est très très au cœur de la poésie contemporaine française. Et à la limite, le fait que vous intituliez un livre, le dernier, La pluralité des mondes de Lewis, enfin, le pose dans le titre même, et que je ne risquerai pas à paraphraser. D'ailleurs, j'ai regardé, il n'y a pas de quatrième de couverture. J'ai espéré vous prendre en défaut à la seconde même en retournant le livre et pour voir s'il y avait trois lignes, il n'y avait effectivement rien.
Ah oui, bon. Il pourrait y avoir une quatrième de couverture, mais elle ne dirait rien de ce que dit le poème.
Et j'aimerais savoir, je veux dire, comment vous voyez la question à la fois pour vous et peut-être dans la poésie contemporaine, de ce rapport entre la poésie et la philosophie. Quel est l'usage que vous-même, par exemple, pouvez faire de la philosophie, puisque vous en faites un usage certain et d'une certaine philosophie. La seconde question, je repose ma question de tout à l'heure à laquelle vous n'avez pas répondu, qui est la question des rapports entre le formalisme tel que on peut vous dire formaliste, dans La vieille Alexandre, Soleil du soleil, La fleur inverse, enfin l'ensemble de vos livres de théorie, et les formalismes antérieurs qui se sont intéressés à la poésie et qui sont ordinairement appelés, que l'école, en tout cas, enseigne comme étant les approches formalistes traditionnelles de la poésie, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi, à la limite, le structuralisme. Et comment vous...